Salut les gars, salut les filles, salut les gilets jaunes, bonjour. Il est facile d'analyser un sermon de Renato. Tout ce qui est bien, bien écrit, c'est un copié-collé. C'est qu'il a des fautes d'orthographe, c'est à Renato. Mais le Seigneur, si le Seigneur vous parle cet après-midi, vous pouvez le remercier et glorifier parce que cela vient du Seigneur. Quand Clément m'a dit de prêcher encore sur Amos, j'ai dit, Clément, s'il te plaît, pitié de moi. Pas d'Amos. Mais dis non, Renato, il y a encore la fin du livre. Et c'est la quatrième fois que j'ai fait une prédication sur Amos. Il y avait certes des versets très importants pour moi. Mais pour moi, c'était juste un livre. Un prophète parmi les 12. Un petit prophète. Mais ce livre m'a marqué. Les moments où j'ai toutes les expériences que j'ai eues dernièrement, Amos m'a marqué. Et c'est pas simplement les prophètes de la justice sociale. Il est aussi les prophètes improvisés, les classiques du rejeté par les autorités religieuses. Et Amos est aussi l'exemple d'un ministère de courte durée. Avant de rentrer dans les sujets, les thèmes de la restauration du pays d'Israël, la promesse qui achève ces livres, je voudrais encore méditer sur quelques aspects de notre prophète avant qu'on l'oublie, jusqu'à qui Clément nous demande de parler d'Amos encore une autre fois. Amos, les bergers des Tekoa. C'était vers 750 avant Jésus-Christ. Les deux royaumes semblent en plein succès. Ozias, le roi du sud, a battu les Philistins. Et sa renommée s'étend jusqu'aux frontières de l'Égypte. Les rois d'Israël, Jéroboam II, lui aussi a étendu ses frontières au nord jusqu'à Damas. Son règne est ce que nous appelions aujourd'hui un temps d'expansion économique. Les commerces font tling-tling, on fait de l'argent. Et politiquement parlant, c'est un grand roi. À vue humaine, rien n'annonce la catastrophe et les tsunamis. En fait, les royaumes d'Israël disparaîtra de la carte du Moyen-Orient moins de 40 ans après Amos. Deux hommes, seulement deux hommes, ont vu l'ouragan, les prophètes Amos et les prophètes Osée. Mais personne ne les croit. Deux hommes, Osée et Amos. Nous savons tous l'histoire d'Osée, un homme appelé avec un ministère très difficile. C'est de prêcher avec sa vie, son exemple de vie. Il s'est marié avec une femme de prostitution, une femme adultère, pour que sa vie soit une prédication, pour montrer et dénoncer l'adultère du royaume, des gens qui ont abandonné l'Éternel pour aller adorer les idoles. Et Osée, l'homme simple, les bergers, qui quitte son bétail pour aller annoncer la parole de Dieu. Parlons d'Amos. Qui est Amos? C'est juste un des petits prophètes parmi les 12 prophètes. Tout d'abord, juste une précision quand on dit qui c'est un petit prophète, ça ne veut pas dire qu'il était inférieur à Ésaïe, à Jérémie. Ça veut dire simplement que le volume de son œuvre est beaucoup moins importante en volume, en grandeur, que celle d'Ésaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel. Donc, il n'y a rien d'inférieur. Il est simplement un homme de Dieu qui écoute la parole et l'appel du Seigneur. Chaque prophète est avant tout un homme de Dieu, appelé, préservé et équipé pour une mission spécifique. Ici, je reviens sur le thème d'Amos, sur sa personne. C'est parce que je crois que le Seigneur est en train de susciter des nouveaux Amos dans nos jours. Des gens qui s'élèvent pour aller proclamer la parole de Dieu. Nous avons tous la mission d'annoncer. Mais il y a certains qui doivent payer les prix très forts d'abandonner une carrière, des expectatives de la famille, une carrière d'avoir un bon salaire pour aller devenir un pasteur, un missionnaire, un responsable d'église. Amos, c'est pas du tout comme nous, des gens de la ville, c'est un homme de la campagne, un homme du désert. Et la solitude du désert a produit des hommes de grande qualité spirituelle. Abraham, Moïse, Josué, Élie, Amos lui-même, Jean-Baptiste et Jésus. Le désert, dans les langages bibliques, signifie les épreuves, les difficultés et les souffrances. Dieu travaille dans nos cœurs comme nous sommes dans la souffrance, comme nous passons par les déserts de cette vie. Il y a des déserts aussi réels, ou plutôt plus réels encore, qui est ce qui est composé de sable et des chaleurs. Les illusions terrestres, les rêves infantiles et mesquins, les bruits de ce monde, les trompe-d'œil, tout ça tombe par terre dans les déserts. Là-bas, il n'y a que du vide, le silence et la solitude. Et parfois, on se demande, Seigneur, où es-tu? C'est là-bas que le Seigneur travaille dans notre cœur. C'est là-bas qu'il nous parle. C'est là-bas, dans les déserts, qu'il nous appelle. Je suis sûr qu'il y a d'autres Amos ici parmi nous. Et le Seigneur est en train d'ouvrir vos yeux et vos oreilles. Faites simplement comme le jeune garçon Samuel qui a dit, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Le 23, hier, il a fait 15 ans que mon fils a eu un grave accident au Brésil. Il s'est fait arracher un doigt de sa main. Au jardin, il avait 9 ans à l'époque. Et pour nous, c'était un choc, pour moi et pour ma femme, en voyant notre fils sans le doigt, complètement arraché. Il portait une bague de plaisanterie qui s'est accrochée dans un clou. Et on a pris les restes du doigt, on a pris notre fils, on l'a amené à l'hôpital. Et ne me demande pas comment ils ont réussi à implanter ses doigts. Et c'est dans ces moments que le Seigneur nous a parlé. On avait décidé d'amener notre fils à Euro Disney, à Paris. Et c'est là que tout a commencé pour nous. On arrive ici et on s'est dit, tiens, il n'y a pas d'église évangélique, c'est bizarre ça. Où sont les évangéliques de cette nation? Et on s'est dit, on va venir travailler peut-être pour le Seigneur, je ne sais pas. Et après 4 ans, on était installé en France. On avait tout laissé. Mais c'était par la douleur, par les moments difficiles que le Seigneur nous a parlé. Le Seigneur ne nous parle pas comme nous sommes en fête. Le Seigneur ne parle pas comme nous sommes au bar, hein, en train de jouer jouer les cartes. Et en buvant du bon vin, il nous parle quand nous sommes dans la détresse. Amos, il dit au chapitre 7, 14, « Je ne suis ni prophète, ni fils des prophètes, mais je suis berger, et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière les troupeaux, et l'Éternel m'a dit, « Va, prophétise à mon peuple d'Israël. » Amos n'était pas un prophète au sens technique du mot, car il existait déjà à cette époque les écoles des prophètes, confréries des prophètes, un genre institut biblique de nos gens, de notre époque, avec toutes ces règles, tous ces codes, café pas cher et gâteau 4 quarts, pour tout le monde. Il y avait des prophètes qui venaient, il y a bien des prophètes qui viennent de nulle part. On sait à peine d'où il vient. Pourtant, c'est un envoyé de Dieu. Un prophète, c'est un homme libre. Il a la liberté de la parole. Il n'est dit que ce que les seigneurs leur donnent de dire. Et combien nous avons besoin des hommes et des femmes ainsi, de cette manière, aujourd'hui. Nous restons toujours entre nous et nous disons les mêmes phrases. Nous lisons les mêmes livres. Nous passons tous par les mêmes écoles. Que les Seigneurs nous aident à sortir de cette spirale. Où sont les prophètes de cette génération? C'est qu'ils vont tout casser. Ah, mais la tradition dit que la chose doit se faire comme ça. Et on s'est dit, ah, la tradition, cet élément toxique qui nous tue. Je ne suis prophète ni fils des prophètes, mais je suis berger. Et l'Éternel m'a pris derrière les troupeaux. Je me demande, je me dis, il n'était même pas devant, il était derrière, tellement il était petit. Va, prophétise à mon peuple d'Israël. Je veux dire à ceux qui ressentent l'appel de Dieu, ils sont pas sûrs, ils ne savent pas comment ça va se faire. Je vais lire Proverbe 19, 21. Il y a dans les cœurs de l'homme et de la femme aussi beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Proverbe 20, verset 24. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme et de la femme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voix? Mais l'homme peut-il comprendre sa voix? Est-ce que Amos a compris ce que le Seigneur était en train de faire dans sa vie? Quel courage! Quelle sainteté! Quelle certitude l'a fait quitter sa terre, le sud, pour aller dans une autre terre, annoncer la parole de Dieu. Il y a dans toute vocation authentique un mystère qui n'appartient qu'à Dieu seul. Quel grand mystère, Samuel, le Seigneur nous a appelés. On ne sait pas expliquer. Comment expliquer à notre famille qu'on doit partir, qu'on doit tout quitter, qu'on doit faire son œuvre? Comment expliquer à nos amis? Comment expliquer quand tout va bien et il y a quelque chose qui brûle en nous pour aller annoncer la parole de Dieu? Comme un homme simple, comme Amos, a pu avoir la certitude de son appel, sans un maître spirituel, sans un prof, sans un pasteur, sans un supérieur. Un simple berger des Tekoa abandonne ses bétails et prend la route. Attention, jeunesse de l'église de Samor, le Seigneur vient et change et bouleverse tous nos projets. On sait quoi que ça va être comme ça notre vie. Après 5 ans, disons, tiens, tout a été changé. Le Seigneur a fait différemment. Le Seigneur nous a mis sur un autre chemin. Le Seigneur continue de susciter d'autres Amos dans nos jours, des ouvriers dans l'usine, des médecins, des avocats, des professeurs, des commerçants, ils changent nos projets. On l'appelle Amos l'un prophète improvisé, mais l'inspiration divine ne s'exerce pas d'une manière magique. C'était pas comme ça qui arrive pour Amos. Il y a eu un travail long et douloureux dans les cœurs du prophète. Dieu avait ouvert les yeux d'Amos quand il allait en ville pour faire ses achats ou pour vendre ses produits. Il a vu l'arrogance des hommes d'affaires. Il a vu les balances faussées. Il a vu la corruption des autorités, la misère des pauvres, l'exploitation du faible et les femmes des hommes riches à qui Amos a donné les noms des vaches des Basans. Les vaches des Basans qui étaient ornées en or et en argent. Amos a eu du mépris pour les grands de la société. Amos a pleuré la situation des misérables, des laissés pour compte de la prospérité du royaume des Jéroboam II. C'est normal qu'Amos se fasse expulser par son message. C'est pas un message qui fait du succès. Et j'arrive à la troisième partie du message, qui c'est les thèmes de la restauration. Quand on voit le monde comme il est, quand on lit les journaux, quand on regarde la chaîne 15 et la 16, ça nous fait peur. Mais je vais vous dire une chose, il y a encore de l'espoir. Amos s'est fait expulser, mais pas avant de laisser un message d'espérance. Tout son message, tous ses oracles étaient des châtiments et vengeances. Mais il y a encore des promesses pour un petit reste d'Israël. Tout d'abord, que ça soit très clair entre nous, les dieux de la Bible n'est pas ces dieux d'amour à la légère, qui on chante avec un super groupe des gospels de nos jours. Dieu ne pardonne pas les coupables. Il s'évenge. Le Seigneur est plein de fureur. L'Éternel est long à la colère, mais il est grand par sa force. Il ne laisse pas les coupables impunis. Il n'y a pas de pardon à bon marché. Il y a bien des gens parmi nous qui sont en train de plaisanter avec Dieu. Ils sont durs, méchants, cruels, insensibles, amis de l'argent, égoïstes, ingrats. Ils ont toute une apparence de piété, mais au fond, ils sont des terribles enfants. Peut-être qu'ils se disent, peu importe, à la fin de ma vie, je demande pardon. Mais je veux vous dire à cette personne, s'il est là parmi nous, le Seigneur ne te pardonnera pas. C'est pas comme ça. Les jours de la repentance, c'est aujourd'hui. C'est maintenant. C'est aujourd'hui que le Seigneur nous demande de changer nos vies. Pas le demain. Le demain ne nous appartient pas. Le Seigneur nous demande aujourd'hui que nous fassions le bien. Coûte que coûte. Que nous laissons nos mauvaises voies et que nous changions de vie. C'est aujourd'hui les jours du salut. Et quand le Seigneur décrète la fin, quand le Seigneur décrète la destruction, c'est trop tard. Il n'y a plus d'espoir. Parce que même la repentance, ça vient du Seigneur. C'est pas l'œuvre de l'homme ou de la femme, cela vient de Dieu. Changeons aujourd'hui ce que le Seigneur nous demande de changer. Toute la nation a péri, les grands, les petits, les riches, les pauvres. Ce n'est pas un message agréable à porter, et pourtant c'est du vrai, ce qu'Amos a fait. Personne ne peut le croire, mais il est parti avec les sentiments de la mission, de sa mission, être accomplie. Nous vivons des temps qui a été prophétisé dans la Bible, où les hommes sont perplexes de ce qui arrivera sur la terre. S'il y aura de l'oxygène, s'il y aura des arbres, si la mer ne va pas envahir nos belles villes. Nous avons vu la faiblesse de Venise ces derniers jours, et les scientifiques, les hommes de la science, nous disent depuis longtemps qu'il suffit des 5 centimètres de l'eau pour tout gâcher. Et les nations ont peur de l'avenir proche. Et ces messages d'Amos, c'est pour nous encourager, car nous sommes héritiers de cette promesse qui est là, qui nous venons de lire. Nous sommes la vraie Israël de Dieu. Nous n'attendons pas un morceau de terre au prix des sang des pauvres gens de la Palestine. Nous attendons la Jérusalem céleste, avec ses rues en or et une mer en cristal. J'ai vraiment du mal à comprendre comment tout cela va se mettre en place. Je préfère même pas me casser la tête. J'ai lu l'Apocalypse plusieurs fois, j'ai rien compris, j'ai vu jour. Je n'ai rien compris. La seule chose que j'ai compris, c'est que le Seigneur tient les caps. Il tient la route. C'est lui qui dirige l'histoire, ce sont pas les hommes. L'histoire, c'est pas un camion sur une route glissante, sans contrôle, non. Le Seigneur tient bien les volants. Il nous amène vers où il veut que nous soyons. La seule chose qui me conforte, me console, c'est de savoir que le roi Jésus viendra. Il a les derniers mots. Il est l'alpha et l'oméga. C'est à lui les dernières décisions. Tout le monde peut entrer dans le désespoir, entrer en panique. La Bible nous invite à nous lever la tête parce que notre salut est proche. La promesse d'Amos, la terre promise, la restauration de la sainte ville est plus profonde que cette guerre sans fin qu'on voit sur la carte en Israël. Jésus viendra. Et dans mon cœur, je sais qu'il est tout proche de nous. Un de ces jours, les trompettes sonneront et de façon très claire, les élus, toi et moi, nous saurons que le temps des changements est arrivé. Comment ça va se faire, je n'en sais rien. Mais Jésus viendra. Et il est proche. L'oracle des saluts annoncé par Amos, bientôt va s'accomplir. Cette œuvre de la restauration a commencé avec un juif, Jésus, le Dieu homme cloué sur une croix. Par l'œuvre de Jésus, tout est accompli. Les gens de l'Ancien Testament ont vu les plus grands miracles. C'était quand la mer Rouge s'est ouverte et Israël a traversé la mer à pied sec. C'était les plus grands miracles de l'Ancien Testament. Nous verrons encore des choses plus merveilleuses. Nous verrons Jésus qui viendra sur les nuées. Et nous serons tous transformés. La terre sera transformée. Et Jésus régnera pour toujours. Ce que Jésus accomplit sur la croix nous donne de l'espoir. Et même si nous tombons, et si nous tombons si bas, nous savons que par le sang de Jésus, nous pouvons toujours nous révéler, nous relever, être début. Si aujourd'hui nous péchons, si aujourd'hui nous sommes loin, nous pouvons croire qu'il est le pardon du Seigneur. Il est tout proche de nous. Mais il faut venir, il faut se repentir. C'est là mon message d'aujourd'hui. Que le Seigneur nous renouvelle et que nous ne perdons courage et que nous puissions faire comme Jésus quand on entendons parler des guerres et des famines et des catastrophes, que nous puissions lever notre tête car notre salut est proche. Que le Seigneur bénisse sa parole, sa méditation, cette méditation. Que le Seigneur bénisse cette église. Que le Seigneur bénisse les Amos de cette église. Et ceux qui ne savent pas trop, je vais vous dire une chose. Quand le Seigneur nous parle, on sait très bien, très clair qu'il nous parle. Mais le Seigneur ne nous parle pas trop. Le Seigneur, il parle très peu, en fait. Mais quand il parle, il va dire, vas-y, mon fils, vous saurez qu'il c'est l'heure de partir et faire son œuvre. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta présence parmi nous. Nous te prions de nous bénir. Comme tu as fait avec Amos, qu'il a pu prendre le courage d'aller. Nous te demandons aussi le courage d'aller annoncer ta parole. C'est tellement difficile, au Père, de dire des choses dans ce monde où tu n'as plus la place parmi, dans les cœurs des gens. Mais nous te demandons ta sagesse. Nous te demandons que tu nous donnes la parole à ceux qui sont dans la souffrance, à ceux qui ont perdu tout l'espoir, au Père. Nos voisins d'en face, les gens de notre famille. Donne-nous, Seigneur, l'esprit missionnaire. Ô Père, ta parole, c'est la seule qui sauve, c'est la seule qui guérit. Et nous, moi, nous restons dans les silences, ô Père, nous ne proclamons pas ta parole. Donne-nous, Seigneur, l'audace, le courage de parler de toi. Aide-nous, Seigneur, parce que nous sommes faibles. Notre foi est petite. Nous sommes timides. Ô Père, je te demande de réveiller ton Église pour annoncer ta parole. Et nous te demandons, Jésus, viens vite. Maranatha, au nom de Jésus, amen. Soyez bénis. Merci, mes amis.